Radio Okapi.
Les informations avec Belinda Bosuma.
Des activités ce lundi à Goma au Nord Kivu. Les manifestants en colère ont barricadé toutes les grandes artères principales de la ville. Ils exigent le retrait de la force de l'EAC sur le sol congolais. Opération d'identification et enrôlement des électeurs en RDC dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. Tout se passe normalement d'après la CENI. Cependant, dans le territoire de Kongolo, des sources sur place disent constater la lenteur et la corruption dans certains centres. Et puis, il s'ouvre aujourd'hui à Cape Town en Afrique du Sud la conférence minière internationale Indaba pour 4 jours. Ce forum est un atout non négligeable pour les sous-traitants congolais qui œuvrent dans le secteur minier. Propos de Dauphin Dikoulou, entrepreneur congolais qui participe à ces assises. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Vive tension ce lundi matin dans la ville de Goma. Les manifestants en colère ont barricadé toutes les grandes artères principales de la ville. Du coup, écoles, magasins, boutiques, banques et stations-service n'ont pas fonctionné. Ces manifestants, visiblement en furie, ne jurent que pour le retrait de la force de l'EAC du sol congolais. La police s'emploie à dégager toutes les voies d'accès en ville, mais l'effectif numérique des éléments engagés dans l'opération n'arrive pas à calmer la tension. Gabriel Wamenya nous décrit la situation.
C'est tôt ce matin que l'artère principale qui relie le centre-ville au nord jusqu'au quartier Ndosho en passant par l'Institut de Goma que les manifestants ont placé des gros cailloux et autres barricades sur la voie publique interrompant le trafic urbain et bloquant tout accès au centre-ville. Au rond-point communément appelé Instigo, la situation s'est vite détériorée. Nous avons aperçu une foule compacte de manifestants à laquelle se sont joints quelques élèves qui plaçaient sur la route des gros cailloux et une géante colonne de fer arraché sur un panneau publicitaire qui ont complètement bloqué les passages aux camionneurs, aux motards ainsi qu'à quelques piétons le plus courageux. Tous scandaient des slogans hostiles contre l'inaction de la force régionale de l'EAC depuis son arrivée à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Un peu plus loin de là, justement à Afiabora et au croisement marché Alani, la police a tenté de dégager la voie publique et disperser les manifestants à l'aide des gaz lacrymogènes, mais en vain. Le gouverneur des provinces, le lieutenant général Constant Dima, est allé personnellement à la rencontre des manifestants sur les points chauds de la ville pour les appeler au calme, mais jusqu'en fin de la matinée, la tension reste toujours perceptible dans la ville. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Par ailleurs, d'intenses combats opposent depuis ce matin l'armée et les rebelles du M23 dans le groupement de Kamuranza, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. Nous sommes toujours au nord Kivu. Selon des sources anonymes confirmées par les responsables coutumiers, les rebelles ont lancé cette offensive pour tenter de couper la route Goma-Sake en contournant les positions des FARDC dans le parc. Aucun bilan de ces combats n'est disponible pour l'instant, mais l'on signale un afflux de déplacés arrivés dans la cité de Sake. En Ituri, pendant ce temps, 11 civils ont été tués et 37 autres blessés dans une attaque la nuit dernière, attaque attribuée au groupe armé Zaïre dans le village de Diambou, territoire de Djougou. Les acteurs de la société civile de cette entité condamnent ces violences qui suscitent des tensions communautaires et demandent aux FARDC de restaurer l'autorité de l'État dans ce territoire qui a déjà tant souffert des affres de la guerre depuis 2017. Le récit de Isaac Remoyope.
Les habitants du village de Diambou étaient surpris vendredi dans la soirée par des tirs nourris des présumés miliciens des Zaïre. Certains se trouvaient dans un débit de boissons pour se divertir et c'était la débandade totale. Dans la foulée, 11 personnes ont été touchées par balles et sont mortes sur place et 37 blessés, affirment des sources concordantes. Ceux qui sont dans un état critique sont pris en charge par la MONUSCO de la base d'Amé. D'autres ont été acheminés à Godjoka pour des soins. On signale également les déplacements massifs de la population dans la région. Les présidents des jeunes du territoire de Djougou Ouagadougou déplore la persistance de l'insécurité depuis 2017 aux conséquences graves. Il demande au gouvernement d'assumer sa responsabilité et office aux filles de cette entité de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Selon l'armée en Ituri, les opérations militaires sont en cours dans la région. Des sources de sécurité dressent un bilan de 223 morts en janvier dans les seuls territoires des Djougou. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restant en Ituri, quatre éléments des EDF ont été neutralisés par les FARDC dimanche au village de Ndimokato dans le territoire d'Irumu. Selon des sources de sécurité, c'était au cours d'une embuscade tendue par ces malfrats à un convoi de véhicules en provenance de Beni au nord Kivu en direction de Komanda en Ituri. Certains véhicules seraient incendiés par ces rebelles. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, les forces loyalistes sont intervenues pour limiter les dégâts. Il précise que la circulation qui était perturbée sur cette route nationale est rétabli depuis ce lundi matin. Direction la province du Tanganyika. Les opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans le territoire de Moba se poursuivent normalement, signale le chef d'antenne de la CENI. Mais dans le territoire de Kongolo, des sources sur place signalent quelques problèmes dans des centres d'enrôlement. Paulin Munanga nous fait le point.
Dans le territoire de Moba, le chef d'antenne de la CENI indique avoir fait la ronde dans des centres d'enrôlement pour se rassurer du bon déroulement des opérations. Polycarpe Bouezo souligne que tout se déroule normalement dans le territoire de Moba, qui compte 247 centres et qui attend plus de 300 000 enrôlés.
On a fait des rondes ici au centre, même aux environs et même au-delà de 30 km, 40. On a fait du tour déjà et les opérations se passent bien. Jusque-là, pas de panne technique. Il nous reste d'avoir les feedbacks, c'est-à-dire les endroits non couverts par les réseaux. Et on va voir avec la supervision de CTT, CT Pro, on peut avoir toutes les données du territoire, mais on a déployé tous les matériels. À Moba, on s'attend vraiment au-delà de 300 000 candidats.
À Kongolo, par contre, le président du conseil territorial de la jeunesse constate la lenteur et la corruption dans des centres d'enrôlement. Mwanalenge Wakabambi.
Dans chaque centre, il y a des lenteurs. D'autres font 2 ou 3 jours pour être enrôlés, pour entrer dans la salle. Il faut moyenner quelque chose au niveau des surveillants.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle se déroule aussi à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, et elle s'est poursuivie normalement. Cependant, il se pose le problème de la compréhension par certains Congolais des conditions pour prendre part à cette opération. Quelles sont alors ces conditions pour enrôler les Congolais de la diaspora et particulièrement ceux de l'Afrique du Sud? Des précisions avec Grace Amzati, l'envoyé spécial de Radio Okapi à Pretoria.
Conformément à la loi portant identification et enrôlement des électeurs, les Congolais résidant à l'étranger doivent présenter un passeport congolais en cours de validité ou une carte consulaire. Cependant, chacune de ces deux pièces est présentée cumulativement avec soit une carte ou attestation de résidence, soit avec une carte de séjour en cours de validité. En ce qui concerne particulièrement l'Afrique du Sud, le passeport ou la carte consulaire doit être présenté cumulativement avec l'un des documents délivrés par le gouvernement sud-africain, parmi lesquels le permis de résidence temporaire, le visa d'études, le visa de travail, le visa pour personnes dépendant d'un porteur de résidence permanente, le visa pour conjoint ou conjointe d'une personne ayant un visa de travail, le visa d'affaires, le visa de retraite ainsi que le permis de résidence permanente. Selon certaines sources sur place, une bonne partie des Congolais vivant en Afrique du Sud ne disposent pas de ces documents. C'est le cas des réfugiés qui ne pourront donc pas s'enrôler. Comme nous l'a dit le professeur Ferdinand Kapanga, le conseiller principal du rapporteur qui conduit l'équipe de la CENI ici à Pretoria.
Tous ceux qui ont ces documents viennent, ils s'enrôlent. Ces conditions ne sont pas fixées par la CENI, elles sont fixées par la loi. Et le président de la CENI nous a instruit de respecter la loi. Et si nous voulons respecter la loi, donc nous ne pouvons pas enregistrer les réfugiés.
De Pretoria, Grâce Amzati Masanzi, Radio Okapi.
Nous sommes au sud Kivu à présent. L'aéroport de Kavumu reste fermé à tout mouvement d'atterrissage et décollage des avions pendant 10 jours. L'annonce est de la régie des voies aériennes RVA Sud Kivu. Il s'agit, selon la même source, des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de cet aéroport pour permettre l'atterrissage et le décollage des gros avions. Ainsi, tous les passagers par voie aérienne au départ de Bukavu sont priés de prendre leur disposition. Le seul moyen possible en ce moment entre Bukavu et Goma reste la voie lacustre sur le lac Kivu. La RVA annonce la reprise du trafic à l'issue des travaux en cours qui prendront fin le 15 février prochain. Rendons-nous dans la province de Lomami. La cour d'appel a levé samedi la mesure suspendant les activités de la radio Tokomiwapi, station privée du député national Eliezer Ntambwe, émettant depuis la ville de Kabinda. Cette ordonnance intervient après la requête déposée par le promoteur de cette chaîne contre le ministre provincial de la communication et médias, ainsi que la province de Lomami, auprès duquel il exige le paiement de 3 millions de francs congolais des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Explication externe de la FINA.
Les émissions de la radio Tokomiwapi, émettant en Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, vont bientôt reprendre après l'interruption d'un mois et demi. La cour d'appel de Lomami, qui a siégé samedi dernier en chambre du conseil en matière de référé, a rendu l'ordonnance exécutoire suspendant les effets de la décision de réduire au silence les activités de la radio Tokomiwapi par le ministre provincial de la communication sur décision du gouvernement provincial. Ce dernier reprochait à ce média l'incitation au soulèvement populaire, la haine tribale et les troubles à l'ordre public. Dans sa requête déposée à la cour d'appel de Lomami la semaine dernière, le promoteur de cette chaîne, le député national Eliezer Ntambwe, a qualifié la décision du ministre provincial de la communication d'atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnelles reconnues. Il a à cet effet demandé la levée de la mesure suspendant sa radio fermée depuis le 9 janvier dernier, ainsi que le paiement par le gouvernement provincial des 3 millions de francs congolais des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Présent à cette audience, le ministre provincial de la communication a déploré le fait d'être traduit en justice étant donné qu'il ne représente pas la province. Signalons que l'ordonnance de la cour d'appel est saluée par l'Union congolaise de la presse du Congo ainsi que certaines organisations de défense des droits de l'homme de Kabinda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, le gouvernement congolais accorde deux projets agricoles à la province du Maniema. Il s'agit du projet d'appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans 6 provinces et le projet d'urgence des productions alimentaires. Ces projets qui seront exécutés dans 3 territoires du sud Maniema ont été lancés ce week-end par le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Bangala. Selon le secrétariat général à l'agriculture, ces deux projets visent notamment l'amélioration des conditions de vie de la population du Maniema. Des précisions avec Florence Kiza.
Ces projets du gouvernement congolais tombent à point nommé au Maniema car la province fait face à l'insécurité alimentaire. Les chargés des chaînes de valeur à ces deux projets, ingénieur Omari Babini, explique.
Ces projets visent l'amélioration des conditions de population en augmentant la productivité agricole et la production agricole. Tandis que le projet PURPA, c'est un projet d'urgence qui est un projet du gouvernement congolais qui est suite aux impacts de la COVID-19 amplifié par la guerre de l'Ukraine, ce qui a fait qu'il a arrêté les intrants les plus importants. Ainsi que le gouvernement congolais a sollicité auprès de la BAD un financement pour appuyer de manière urgente les activités agricoles en RDC.
Le gouverneur intérimaire dit attendre l'exécution correcte de ces projets. Afani Idrissa.
Nous sommes heureux de voir à ce jour s'ajouter un nouveau partenaire qui est la BAD avec deux projets. Les deux projets de la BAD qui démarre au Maniema ce jour, tombe à point nommé. Notre vœu est de voir les deux nouveaux projets s'exécuter dans le respect des mécanismes institutionnels prévus et ainsi tendre tous ces objectifs.
Notons que ces projets financés par la BAD vont s'exécuter dans les territoires de Kabambare, Kasongo et Kibombo. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un vent d'opposition commence à souffler contre l'excision en Sierra Leone, l'un des pays où cette mutilation génitale est la plus pratiquée au monde. La jeune génération commence à se révolter contre cette coutume d'un autre temps. Du côté de la France, près de 125 000 femmes ont subi une mutilation sexuelle. Si depuis 40 ans, la lutte contre ces violences faites aux petites filles a permis de mettre en place une véritable prise en charge psychologique et chirurgicale, la question reste encore taboue. Ceci est relevé par les experts à l'occasion de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines aujourd'hui 6 février. Au Mali, le directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été déclaré persona non grata et devra quitter ce pays dans un délai de 48 heures, ont indiqué dimanche les autorités maliennes. Dans une déclaration publiée dimanche, le ministère malien des Affaires étrangères a accusé Guillaume Ngefa Atondoko Andali de transmettre au Conseil de sécurité de l'ONU la version proposée par des usurpateurs se faisant passer pour des militants de la société civile en ignorant les autres versions.
L'invité.
Ouverture ce lundi 6 février à Cape Town en Afrique du Sud de la conférence minière internationale Indaba, ce forum est un atout non négligeable pour les sous-traitants congolais qui œuvrent dans le secteur minier. Ce sont les propos de Dauphin Dikoulou, entrepreneur congolais basé à Lubumbashi et qui participe à l'édition 2023 de Indaba. Il a organisé un événement en marge de ce forum pour présenter l'expertise des sous-traitants congolais dans le secteur minier. Par ailleurs, Dauphin Dikoulou plaide pour l'application de la loi en la matière qui réserve exclusivement des activités de la sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais majoritaires. Dauphin Dikoulou s'entretient avec notre envoyé spécial à Cape Town, Cynthia Bachizi.
Monsieur Dauphin Dikoulou, bonjour.
Bonjour madame.
De quoi souffre aujourd'hui le secteur de la sous-traitance au Congo ?
Comme j'ai dit, la loi. La loi est bonne, mais elle n'est pas encore totalement appliquée. Il y a encore un certain nombre de choses qui posent beaucoup de soucis.
C'est quoi, par exemple ?
Je dirais, pas pour pointer du doigt les opérateurs miniers, mais je dirais que certains opérateurs miniers encore continuent à essayer de contourner la loi, continuent à mettre en place des mécaniques pour essayer de ne pas respecter la loi. Ce qui fait que les choses ne vont pas très vite dans le sens au bénéfice de ces entrepreneurs congolais, des PME, de sous-traitants et de tous ceux qui veulent exercer dans ces secteurs-là. Ça, c'est une chose aussi. Et j'ai parlé de la volonté politique. La volonté politique est très, très importante. Mais je pense qu'avec la dynamique, l'impulsion du gouvernement de la République avec le président de la République, je pense que les choses vont dans un bon sens. Si on compare, par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je pense qu'il y a du changement.
C'est quoi ce changement ?
Le changement, c'est que beaucoup, beaucoup plus d'opérateurs, beaucoup plus de PME, beaucoup plus de sous-traitants congolais ou des compagnies à capitaux congolais commencent à avoir accès à des marchés d'un certain montant. Parce qu'à l'époque, les opérateurs miniers, dans le cadre de contourner les lois, ils limitaient un certain nombre de montants des marchés pour les opérateurs congolais, des montants qui n'étaient pas très intéressants, dérisoires, et les gros montants étaient toujours donnés à des entreprises extérieures. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une certaine volonté d'ouvrir certains marchés pour certains financements à des opérateurs locaux.
Comment un forum comme Indaba peut servir de plateforme de plaidoyer pour l'application de la loi sur la sous-traitance au Congo?
Vous voyez, ce forum réunit quand même des acteurs du secteur public et privé, mais aussi des décideurs. En termes des décideurs, comme j'ai dit tout à l'heure, le président Cyril Ramaphosa viendra à l'Indaba. Il a invité son homologue, le président Félix Tshisekedi, qui est accompagné d'une forte délégation de membres du gouvernement de la République. C'est aussi un moment où nous, sous-traitants, où nous, les incubateurs, où tous ces sous-traitants qui viennent participer ici, de pouvoir, au fait, porter la voix à travers les différents panels qu'il y a ici ou à travers les différents canaux de réseautage pour pouvoir, au fait, porter la voix de tous les éléments qui font que les choses n'avancent pas très rapidement. Je pense que ce cadre, loin du pays ou encore dans un contexte international, met au fait nos dirigeants ou encore les décideurs dans un environnement où ils sont facilement accessibles et facilement ils peuvent, au vu du contexte mondial, pouvoir être accessibles et sensibles au fait plaidoirie des PME congolaises et des sous-traitants.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui les compétences congolaises sont là ? Nous avons des PME en tout cas capables de rivaliser avec les PME étrangères ?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que le Congo détient des compétences, le Congo détient des ressources. La jeunesse des gens en soi est une ressource, non négligeable d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec cela, je pense que tout ce qui peut être, qui peut présenter pas un handicap, mais un élément amélioré, c'est le support technique et le support financier. Le support technique, je vais dans l'aspect logistique, je vais dans l'aspect administratif, je vais dans l'aspect fiscal et l'aspect technique. Donc, toutes ces choses-là peuvent être encadrées, peuvent être apportées. C'est comme un enfant qui naît, il y a tout un cycle, il y a toute une série de choses qu'on apporte à l'enfant pour qu'un jour, il puisse être en mesure de défendre le nom de ses parents et d'être un monsieur ou une dame dans la société. Et la même chose, ces PME congolais sont aujourd'hui en train d'essayer de sortir la tête de l'eau d'eux-mêmes. Mais il y a un besoin d'accompagnement. D'où d'ailleurs le fait de venir ici à Cape Town, le fait d'organiser des événements comme ça, d'attirer l'attention, pas seulement des PME mais des autorités. Ces gens-là ont de la compétence. Nous avons de la ressource et un allègement au fait de la situation fiscale qui les étouffe aussi. Et l'ensemble de ces choses bien fait résolu en termes de problématiques peut amener des jeunes Congolais, des jeunes entreprises congolaises, des sous-traitants congolais à pouvoir se démarquer ou à briller au Congo, mais aussi dans la sous-région.
Ces jeunes ont surtout besoin de confiance.
Exactement. Et moi qui vous parle, je suis aussi jeune, je ne suis pas dans la quarantaine. Et donc je pense que lorsque nous allons vers des jeunes sociétés, nous leur disons qu'il faut croire en nous. Il faut croire en nos potentiels. Il faut croire à 34 ans, 32 ans, 33 ans. Lumumba était Premier ministre. À 29 ans, l'ex-président Kabila était président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer par croire pour rendre les choses, pouvoir faire les choses. Croire pour make it happen. Donc commencer par croire, s'impliquer, s'imposer une certaine discipline et avoir de la conviction sur ce qu'on veut et y mettre au fait de l'intelligence et de la discipline.
Monsieur Dikilo, je vous remercie.
Merci madame.
Dauphin Dikulu, directeur général de l'incubateur Inzona Beto, s'entretenait avec Cynthia Bachizi, notre envoyé spécial à Cape Town. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vuita sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Jean-Noël Mokondo. Merci de nous avoir suivis.